Les matins de France Culture. Guillaume Erner.
Stupeur et colère après la naissance des bébés modifiés, c'est le titre du Figaro du jour. Mercredi matin, le papa, entre guillemets, des deux premiers bébés génétiquement modifiés, il s'appelle Ejiong Kyu, a présenté ses travaux lors du deuxième sommet international sur l'édition génomique humaine à Hong Kong. Ironie de l'histoire, le premier sommet qui s'était tenu il y a 2 ans à Washington avait abouti à un consensus, l'interdiction de procéder à ce type de manipulation. Et pour évoquer cette question à la fois sous l'angle scientifique et sous l'angle éthique. Nous sommes en compagnie de Ségolène Aimé. Bonjour, vous êtes médecin généticienne et directrice de recherche émérite à l'INSERM. À côté de vous, Axel Kahn, généticien, président du comité commun d'éthique INRA-CIRAD-IFREMER et ancien membre du comité consultatif national d'éthique. Axel Kahn, tout d'abord, est-on certain que ce scientifique a réalisé ce qu'il prétend avoir réalisé, autrement dit, la naissance de 2 bébés génétiquement modifiés?
Non, on n'est pas certain. On est à peu près certain qu'il a effectivement essayé d'éditer les génomes des embryons, mais il n'est pas encore certain, car il ne l'a pas publié, il n'y a pas d'article, il n'est pas encore certain que cette modification a été conservée et introduite dans les bébés qui sont nés. Et par conséquent, on va faire comme si cela avait été fait, et de fait, un jour ou l'autre, cela sera fait.
Comment avoir cette preuve, justement ?
Oh, c'était extrêmement facile. La technique consiste avec un système que l'on appelle CRISPR-Cas9, qui est un mélange d'une nucléase, une enzyme qui coupe l'ADN, et puis d'un acide nucléique, d'un ARN guide, peu importe, qui permet de modifier l'ADN, d'éditer l'ADN, de le réécrire même parfois à des sites extrêmement précis, normalement uniquement au niveau de ces sites. Et donc, l'ADN qui code pour un récepteur, qui est le récepteur du virus du sida, a été normalement inactivé, et on doit trouver cette inactivation, évidemment, au niveau du bébé. Mmh. Et si on ne le trouve pas, c'est que cette modification de l'embryon a été perdue, c'est possible, par des phénomènes de réparation. Donc, on saura cela, j'imagine qu'il l'a vérifié, mais il ne l'a pas publié.
Ségolène Aimé, est-ce que ça représente tout d'abord une prouesse? On va mettre de côté l'aspect éthique dont on va reparler, mais est-ce que sur le plan scientifique ça représente une prouesse? Est-ce que c'est une technique aujourd'hui qui est bien maîtrisée?
Non, c'est pas une prouesse, c'est une technique qui est très utilisée. Ça ne veut pas dire qu'elle est bien maîtrisée. Parce que toujours quand on commence à utiliser une nouvelle technique qui était d'ailleurs dès le début très prometteuse parce qu'elle était simple à mettre en œuvre, donc on était sûr qu'elle allait être adoptée et peu chère, on s'aperçoit après que la technique n'est pas aussi simple dans ses conséquences que ce qu'on pensait, et on a découvert avec cet usage très généralisé en science de CRISPR-Cas9 que ça éditait bien comme on voulait, mais ça faisait aussi d'autres choses et qu'il y avait donc des modifications bien au-delà de ce qu'on souhaitait. Donc c'est pas maîtrisé au sens où on ne fait pas exactement ce qu'on veut.
Lorsqu'on présente CRISPR-Cas9 à des néophytes, on explique que c'est un ciseau génomique, c'est-à-dire on peut couper un fragment d'ADN. Le modifier à l'envi, non, c'est pas aussi simple que ça. Il y a, j'imagine, des choses que l'on peut faire en matière de modification génomique et d'autres qu'on ne parvient pas à faire.
Si, on peut faire des modifications qu'on souhaite. Ceci dit, le génome lui-même a beaucoup plus d'inventivité que les hommes et fait bien d'autres choses. Donc, on n'est pas du tout encore, pas du tout encore. Moi, je ne pense qu'on n'y arrivera pas. Peut-être là, je diffère de ce qu'a dit Axel Kahn tout à l'heure en disant que ça serait fait un jour. Moi, je pense qu'il y a des vraies limites à la complexité de la biologie à ce qu'on fasse des modifications qui aient un sens et qui soient pérennes et qui fassent du bien. Voilà. Mais bon, mais cette technique, elle est simple, peu chère et largement utilisée à l'heure actuelle, y compris sur des cellules embryonnaires chez l'animal pour évidemment faire.
Et alors ça sert à quoi par exemple?
Ça sert à comprendre si la technique fait uniquement ce qu'on veut ou si elle a des effets au-delà, et parce que si c'est le cas, eh bien évidemment ça en limite les usages, en particulier chez l'humain.
Axel Kahn, lorsqu'on parle de cette technique, donc elle aurait été utilisée, et alors avant même là aussi de parler des questions éthiques, on dit que c'est faire courir des risques aux enfants que de l'utiliser. Pourquoi? Expliquez-nous.
Elle est déjà très utilisée, cette technique. CRISPR-Cas9 est un peu un outil quotidien utilisé dans des centaines de laboratoires de biologie moléculaire à travers le monde. On a commencé également de modifier des plantes par édition du génome, des insectes ravageurs pour éventuellement éviter qu'ils ne continuent leur ravage, et on a commencé à faire naître des animaux avec édition du génome. Donc il est certain qu'il s'agit d'une avancée technique dans le rêve de tous les biologistes moléculaires depuis que le génie génétique existe, qui est de pouvoir modifier les génomes réellement à façon. Comme Ségolène l'a dit, il y a les modifications de la cible que l'on désire, cette réécriture partielle du génome, mais il y a également, avec une fréquence qui varie suivant les espèces, ce que l'on appelle des effets indésirés, c'est-à-dire il peut y avoir des modifications ailleurs qu'au niveau de la cible, du site du génome, que l'on veut effectivement modifier. Comme on ne sait pas où, c'est très difficile effectivement à vérifier, mais l'on peut évidemment imaginer que ce caractère imprévisible et imprévu fait que ce pourrait avoir des effets délétères. Et donc, de fait, si l'on s'est mis à modifier des génomes de petites filles, qu'ils ne demandaient nullement, on y reviendra, il y avait absolument nul besoin, il n'y a aucun avantage certain, direct, pour elles. C'est une expérimentation sur l'humain, sur des petites filles, de première intention. Rien, honnêtement, dans les critères habituels, ne peut le justifier, rien. Et j'imagine que les autorités chinoises, je crois qu'elles s'y préparent, si cela a été fait, sanctionneront ce scientifique.
Mais alors, quels peuvent être les risques pour ces petites filles, Ségolène Aimé? Moi, je pensais naïvement qu'un individu était viable ou non. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme problème si le génome a été modifié? Qu'est-ce qui pourrait se dérouler après, lorsque ces enfants grandiront?
Alors, c'est impossible à imaginer. Si les modifications des génomes, ce qu'on appelle des mutations, hein, voilà, dans le langage courant, on est porteur de tous énormément de mutations. Elles ne sont pas forcément d'expression directe parce que d'autres parties du génome compensent des fonctions qui pourraient manquer ou être surexprimées. Bon, donc on est là complètement dans l'inconnu sur ce que ça peut être. Mais généralement, c'est pas bon de modifier des fonctions qui ont été préservées par l'évolution et qui sont faites pour que ça marche. Donc c'est juste que a priori, on n'a pas le droit de faire des modifications qu'on ne maîtrise pas et dont on n'a pas évalué a priori, disons, l'étendue des dégâts. Voilà, ça ne se fait pas dans l'espèce humaine, même chez les animaux.
Axel Kahn.
Je voudrais simplement préciser pour les auditeurs ce qui a été fait. On sait depuis un certain temps que le virus du sida, pour pénétrer, se sert d'un récepteur physiologique, c'est-à-dire une molécule qui est à la surface des cellules, que l'on appelle CCR5, peu importe ce sigle. Évidemment, l'évolution n'a pas conservé le gène de ce récepteur comme le récepteur du sida. C'est absurde. Ce récepteur est un récepteur physiologique. Il doit avoir une fonction. On a découvert qu'il intervenait dans l'entrée du sida en étudiant des populations de femmes prostituées africaines. Évidemment, malheureusement, 100% d'entre elles sont séropositives, sauf un petit nombre. Et ce petit nombre avait une mutation inactivatrice du gène CCR5. Cela étant dit, quand on modifie comme cela, si cela a été fait, quand on modifie comme cela un gène, évidemment, il s'agit d'une modification héréditaire. Et cette modification héréditaire va être transmise des générations et des générations. On le retrouvera dans 50 ans ou dans 100 ans. Et ce récepteur CCR5, s'il a été conservé, c'est qu'il sert à quelque chose. Et par ailleurs, il est loin d'être dit que dans 50 ans ou 100 ans, le virus du sida restera une menace. Donc c'est profondément, si je ne parle que de cette modification, c'est profondément un projet totalement absurde.
Alors ce scientifique, He Jiankyu, il se défend et il dit que là, il s'était adressé à des couples qui étaient des couples infertiles dont l'homme était séropositif au virus du sida. Est-ce qu'il y avait d'autres manières d'assurer une descendance à ce couple, Ségolène Aimé?
Oui, on pouvait faire de l'insémination artificielle sans modifier le...
C'est couramment.
Voilà,
hein.
c'est ce qui est proposé généralement dans ce type de
situation.
Donc,
dans ces conditions, le recours à cette technique qui pose tout d'abord une série de questions d'ordre éthique dans la mise en œuvre et aussi pour la descendance ne se posait pas.
Non, absolument pas. Non, absolument pas. C'est vraiment... Non, je pense qu'il a raisonné à l'envers. C'est-à-dire qu'il souhaitait faire cette expérimentation qui, dans son esprit, était une voie vers un vaccin. Il appelle ça un vaccin, mais ce n'est pas un vaccin. C'est une protection naturelle induite contre le sida. Donc, il avait besoin de faire ça. Et donc, il a raisonné en se disant quelle serait la population qui accepterait de se prêter à ce jeu-là. Et comment je vais trouver ces couples-là? Voilà, c'est tout. Il n'avait aucune envie de rendre service à ces gens. Et il a déclaré d'ailleurs sa tentative d'essai dans le registre des essais cliniques chinois, parce que c'est obligatoire, mais très très tardivement après l'avoir fait, donc c'est des mauvaises pratiques. Et l'intitulé fait état de la protection contre le sida, et la création d'un vaccin par modification d'un embryon. Donc c'est même pas déclaré comme étant devant aller jusqu'à la naissance. C'est incroyable.
Ce scientifique, il est aujourd'hui condamné unanimement par les chercheurs qui sont réunis à ce sommet, donc sur l'édition génomique humaine à Hong Kong. Axel Kahn, est-ce qu'il serait jugé moins sévèrement s'il avait effectué une modification sur un aspect du génome qui était un aspect indispensable? Vous nous dites que pour ces bébés, il y avait d'autres manières de les faire naître que cette modification génomique. S'il n'y avait pas eu d'autres manières, est-ce que vous accepteriez ce type d'expérimentation, de pratique?
En fait, la question est celle qui a été présentée comme une merveilleuse opportunité de traiter les maladies génétiques au niveau de l'embryon et donc de les traiter non seulement chez l'enfant à naître, mais également dans la descendance de l'enfant à naître. C'est ce que l'on appelle la thérapie génique germinale. Il y a eu une mystification. Deux équipes, une chinoise et une sino-américaine, ont rapporté des études, mais expérimentales uniquement, dans ce sens-là. Mais il y a eu une mystification, parce que lorsque l'on veut guérir une maladie génétique au niveau de l'embryon, il faut commencer, après une fécondation in vitro, par faire ce qu'on appelle un diagnostic préimplantatoire, c'est-à-dire savoir quels sont les embryons porteurs et les embryons sains. Mmh. Et une fois qu'on a des embryons porteurs et sains, le plus simple, c'est d'écarter les mauvais pour ne remettre dans le ventre de la femme que les bons. Et donc, en réalité, il n'y a aucune indication, enfin, c'est pas tout à fait vrai, il y a très peu d'indications à la thérapie génique germinale par CRISPR-Cas9, par édition du génome, pour des maladies génétiques. Et d'emblée, moi, j'ai prévenu la communauté internationale. Je leur ai dit, en réalité, vous êtes des faux culs. Ce que vous avez en tête, c'est l'homme augmenté. C'est-à-dire, c'est transférer un trait dont le but est d'améliorer une particularité chez les humains à naître, par exemple la résistance à une maladie. Et ce qu'il y a dans la tête de ce scientifique, c'est d'être le premier au monde à avoir ouvert la porte de l'homme augmenté, de la femme augmentée en l'occurrence.
Oui, je suis complètement d'accord. C'est vraiment de la communication. Ce qu'on voit malheureusement de plus en plus chez certains collègues chercheurs de haut niveau, c'est qu'ils ont des intérêts économiques dans des entreprises de biotechnologie et que la meilleure façon de faire du marketing pour leur boîte et d'avoir une renommée internationale, c'est de faire des exploits comme ça qui attirent l'attention.
À ce point-là,
oui, bien sûr.
La publicité pure et simple au sens premier du terme.
Oui, il y a vraiment ça. Il y a vraiment cette dimension-là.
Des entreprises qui font quoi ?
Qui vendent, à part ça, des services classiques de biotechnologie, voilà.
Donnez-nous des exemples, parce que...
Non, mais bon, je sais pas. Moi, je dirais qu'en France, par exemple, on a Laurent Alexandre qui s'exprime sur énormément de sujets, qui, quand on regarde, a des investissements toujours dans des boîtes qui sont dans les secteurs où il s'exprime, voilà, où il défend des idées. Bon, il y a des gens qui sont très attirés par ce genre d'attitude. Et là, en Chine, je pense que la compétition est absolument phénoménale. Moi, je suis allée à Shenzhen voir tout ce milieu-là. C'est extraordinaire. Ils ont une pression aussi pour avoir des crédits, pour avoir des positions énormes. Et donc, il faut qu'ils émergent de cette compétition pour exister. Donc, c'est vrai que les tentations sont grandes de faire des exploits qui vont attirer les regards.
Axel Kahn.
Simplement, je vais raconter une histoire extrêmement tragique, un grand scandale qui date d'il y a un peu plus de 10 ans. Un très grand scientifique américain, vraiment grand scientifique, a fait une expérience de thérapie génique pour un malade je ne vais pas rentrer dans le détail, mais honnêtement, ils ne pouvaient pas en bénéficier durablement. Et par ailleurs, il y avait des éléments pour penser qu'il y avait des risques importants dans ces tentatives de thérapie génique. Ce jeune homme de 18 ans, Jesse Gelsinger, est mort. Il est mort alors qu'il n'était pas totalement imprévisible qu'il pouvait mourir. Et le scientifique en question avait demandé, avait des fonds, était le conseiller scientifique d'une firme, et cette firme s'apprêtait à rentrer en bourse.
D'accord. Donc on voit effectivement qu'il peut y avoir un lien de cause à effet. Ségolène Aimé, vous qui travaillez en tant que médecin sur des maladies dites orphelines, est-ce que ces techniques, cette technique qui là a été employée suscite la condamnation de la communauté scientifique, est-ce que vous imaginez qu'elle pourrait servir pour éradiquer certaines maladies sur lesquelles vous travaillez?
Non, absolument pas. Non, comme je suis sur la même position qu'Axel Kahn, c'est-à-dire que la reproduction humaine laisse de larges possibilités à trier des embryons. Donc je crois que dans les familles où il y a effectivement une transmission et un risque élevé, on a tout intérêt à proposer, au contraire, de faire du diagnostic très précoce ou même pré-implantatoire. Mais le pré-implantatoire, ça veut dire quand même qu'on a recours à la procréation médicalement assistée, qui est une technique qui marche pas si bien que ça et où il y a pas,
c'est difficile. C'est amélioré quand même.
Oui, enfin bon, les taux, c'est quand même une technique compliquée et chère, voilà. Mm-hmm. Mais le diagnostic prénatal très précoce, je pense, lui, a un grand avenir. On pourra certainement dépister la plupart des maladies géniques graves dans les années qui viennent. Et ça, c'est éthiquement acceptable, c'est techniquement faisable, ça n'a pas de risque particulier, voilà. Donc la balance bénéfice-risque va de ce côté-là et non pas vers ces manipulations. Et si ces techniques sont utilisées actuellement, je suis de l'avis d'Axel, c'est avec d'autres idées en tête, mais alors là, il va falloir vraiment y résister parce qu'il faudrait qu'on parle un petit peu de la plasticité du génome, de tout ce qu'on sait et de, voilà, que je pense que être l'apprenti sorcier en génomique après avoir été l'apprenti sorcier du climat, ça fait un peu trop.
Axel Kahn.
Ce à quoi on assiste, et on va en parler, j'imagine, tout à l'heure, réellement, ce à quoi on assiste, c'est avec l'avènement de toutes ces techniques, à une remise à l'honneur des visées eugénistes. Il y a à l'heure actuelle dans le monde, en France aussi, il y a actuellement dans le monde, de manière assez puissante, la remise à l'honneur des visées eugénistes, un eugénisme positif, puisque évidemment, changer le génome des lignées à venir pour apporter des traits nouveaux, c'est typiquement une visée eugéniste.
Est-ce qu'il va être possible de continuer à fermer la porte à ces possibilités-là? Est-ce qu'il est possible aussi de prévoir les conséquences d'un certain nombre de découvertes avec notamment un mot qui est aujourd'hui très largement employé dans la recherche, dans la médecine, l'épigénétique? Vous allez nous expliquer dans quelques instants quelles sont les conséquences de tout cela, Ségolène Aimé, vous qui êtes médecin généticienne, et Axel Kahn qui a notamment publié Chemin. On parlera d'ailleurs de la France et de votre périple en France et le livre que vous avez publié chez Stock. Il est 8h20, nous retrouvons nos invités pour évoquer les bébés OGM, le risque d'eugénisme, les questions éthiques qui se posent suite aux nouvelles découvertes en génétique. Nous sommes en compagnie de Ségolène Aimé, médecin généticienne, directrice de recherche émérite à l'INSERM, et d'Axel Kahn, généticien et président du comité commun d'éthique INRAD-CIRAD-IFREMER. Mais avant d'aborder les questions scientifiques, un peu de politique, puisque Axel Kahn, vous avez publié un ouvrage intitulé Chemin aux éditions Stock, et comme le nom de cet ouvrage l'indique, vous avez marché en France, et j'aimerais savoir ce que le marcheur, aucun a priori politique, voilà, sur le terme de marcheur,
je marche depuis 70 ans, alors qu'il n'y avait pas un parti des marcheurs.
Bah, alors maintenant, c'est le cas. En tout cas, vous avez vu des Français, vous les avez rencontrés. Que vous évoque cette colère des gilets jaunes?
Oh, bien au-delà de ça. Je marche depuis tout temps, mais effectivement, en 2013 et 2014, j'ai par deux fois traversé la France à pied, depuis les Ardennes jusqu'au Pays Basque, et ensuite depuis la Pointe du Raz à Menton. 4000 kilomètres obstinés, allant de territoire en territoire. Et dès mai 2013, j'ai mis en garde Et après, j'en ai parlé au président de la République de l'époque, à l'Élysée. J'ai mis en garde, il y a des territoires, c'est vrai, sur la diagonale du vide, dans le nord-est du pays, jusqu'au centre-ouest. Il y a des territoires où les habitants sont tellement habitués à ce que tout se dégrade, qu'ils n'ont plus aucune foi dans l'avenir. Et donc, ils ont fait sécession avec un discours gestionnaire, rationnel, habituel. Et comme ils n'ont plus foi dans l'avenir, ils prêtent l'oreille naturellement à ceux qui leur proposent comme avenir le retour au passé. Et ces territoires, depuis 2012 d'ailleurs, ont basculé entre 30 et 60% dans le vote qui était à l'époque le vote Front National. Et je prévenais, si on ne prend pas garde, si on n'est pas capable de réenchanter l'investissement dans l'avenir, alors des pans entiers de la population s'apprêtent à faire sécession. Eh bien, naturellement, le terreau des Gilets jaunes, ce sont ces territoires en sécession.
Et justement, par rapport à ça, qu'est-ce que l'on peut imaginer pour tenter d'apaiser cette colère, Axel Kahn ?
Ça va être très compliqué. En réalité, parce que au départ, elle vient d'un mal-être profond. Elle vient d'un scepticisme extraordinaire sur tout ce que ceux d'en haut peuvent proposer. Il y a d'ailleurs, on le voit bien, une difficulté de discussion entre le monde syndical plus habitué aux luttes organisées et ce mouvement-là. Aujourd'hui, le mot d'ordre qui est le seul mot d'ordre qui est unificateur, c'est Macron démission et dissolvons l'Assemblée nationale. C'est difficile de résoudre le problème, on va dire de première intention, en tout cas par cela. Donc, je vais vous dire, je ne suis pas très optimiste dans la possibilité de régler rapidement cette question. Par ailleurs, mon sentiment, je peux me tromper, j'espère me tromper, mon sentiment, c'est que l'issue in fine sera très à droite.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que ces territoires malheureux, ils le sont vraiment. Vraiment, ils ont pris cette habitude du fait de cette difficulté de vivre. Je vous le rappelle, ce sont électoralement, c'est pas moi qui le dis, hein, on regarde les élections, ce sont des territoires qui, depuis longtemps, votent assez massivement à l'extrême droite, 30 à 60% en 2012.
Oui, mais lorsque vous avez fait ce trajet en France, Axel Kahn, puisque effectivement on insiste beaucoup, alors peut-être à tort, sur la déconnexion de la France d'en haut par rapport à la France d'en bas, nous appartenons à la France d'en haut. Qu'est-ce que vous avez découvert? Qu'est-ce qui vous a surpris dans cette France-là?
Je m'attendais à voir cet effondrement. En réalité, j'ai décrit trois sécessions. Tout d'abord, la sécession des éplorés, qui effectivement sont malheureux. Ils ont l'habitude que les manufactures, les usines, tout cela ferme les unes après les autres. Et puis, à côté, il y a la ruralité, qui va plutôt moins mal quand même, quoi que l'on dise, plutôt moins mal, parce que l'agriculture continue à produire des richesses. Mais ils ont tout de même l'impression que tout fout le camp. Les villages se désertifient, il n'y a plus de médecins, il n'y a plus de magasins, et donc hier, c'était tout de même beaucoup mieux. Et puis, il y a également une sécession des nantis. Les riches viticulteurs de Champagne, ou bien d'Alsace, sont vraiment extrêmement prospères. Mais en voyant la détresse à leur porte, ils ont peur d'être emportés par la vague. Donc il y a ces trois sécessions qui amènent effectivement à une fixation vers un passé idéalisé et puis des revendications, des positionnements extraordinairement diverses. La seule possibilité, mais évidemment ça ne se fait pas d'un coup de baguette magique, mais on n'a pas commencé de le faire. La seule possibilité, c'est de proposer un programme d'avenir qui donne aux femmes et aux hommes l'envie de s'y engager. C'est la seule possibilité.
On retrouve en tout cas votre périple dans Chemin, votre ouvrage. Axel Kahn, publié chez Stock, Ségolène Aimier. On va parler à nouveau de médecine et de sciences. On a évoqué donc le cas de ces bébés OGM, des bébés OGM qui soulèvent la condamnation unanime des scientifiques au sujet des manipulations génétiques qui auraient été réalisées par ce chercheur chinois. Tout cela se déroule sur fond de sommet international sur l'édition génomique humaine à Hong Kong. Néanmoins, le fait d'utiliser des techniques comme CRISPR-Cas9, dont on a beaucoup parlé, des ciseaux génomiques qui permettent de recomposer le génome, est-ce que ça n'est pas aussi une solution pour toute une série de maladies orphelines sur lesquelles vous travaillez, Ségolène Aimé, comme par exemple, là on est dans le cadre d'une maladie plus vaste, mais une maladie que vous connaissez bien, la mucoviscidose. Est-ce qu'il n'est pas possible, par exemple, d'utiliser cette technique pour guérir des enfants?
Si, c'est vraiment un champ d'application légitime parce que actuellement on aborde ces maladies, le traitement de ces maladies extrêmement graves par la thérapie génique, qui est une approche laborieuse, compliquée technologiquement, sur laquelle on a maintenant 20 ans d'expérience, on fait beaucoup de progrès, mais l'édition serait certainement une approche plus simple et probablement plus fructueuse et plus coût efficace à l'avenir.
Expliquez-nous comment ça pourrait fonctionner.
Exactement comme la thérapie génique actuellement, c'est-à-dire prendre des cellules de la personne et de l'organe concerné, les modifier et les réinjecter dans le. On n'irait pas direct. Je ne pense pas qu'on irait directement éditer. On ne peut pas éditer. Enfin, là, on ne parle pas de l'embryon, on parle de personnes qui sont.
Oui, c'est justement pour ça que j'ai du mal à comprendre comment ça fonctionne. Parce que à partir du moment où la personne est déjà existante, si on réimplante une cellule, si on modifie le contenu d'une cellule, comment cette cellule, je vais le dire avec mes mots, va-t-elle faire pour se disséminer dans la totalité de l'organisme?
On passe notre temps à renouveler nos cellules. On fabrique des milliards de cellules tous les jours, donc dans tous nos organes. Donc il y a des cellules souches qui sont à l'origine du renouvellement de ces cellules. Donc ce sont ces cellules-là qui sont des bonnes cibles pour être modifiées. Et donc voilà, on n'arriverait certainement pas à modifier l'ensemble des cellules, mais un nombre suffisant pour arriver à ce que l'organe fonctionne à peu près.
On l'a déjà fait ?
Oui.
Axel Kahn ?
Oui. La grande différence et l'innovation que va apporter CRISPR-Cas9, probablement, mais je le crois réellement, c'est qu'aujourd'hui, quand on fait de la thérapie génique, on a donc des gènes qui sont modifiés et qui fonctionnent pas. Et pour arriver à guérir cela au niveau de cellules en général, des fois dans l'organisme entier, on rajoute un nouveau gène. On fait une prothèse. La thérapie génique, aujourd'hui, c'est une prothèse de gène. Il y a un gène qui marche pas, on en met un qui fonctionne. Avec CRISPR-Cas9, on pourrait corriger le gène qui ne fonctionne pas. Ça serait de la microchirurgie réparatrice des gènes. Et évidemment, ce serait bien préférable. Alors, on n'a pas commencé de le faire. Les maladies que l'on a traitées aujourd'hui par thérapie génique, c'est en particulier les déficits immunitaires. Les globules blancs n'arrivent pas à se défendre contre les virus, contre les microbes. Eh bien, on prend des cellules précurseurs des globules blancs, on rajoute un gène qui fonctionne pour remplacer celui qui ne fonctionne pas. Et ainsi dotés, ces nouveaux globules blancs vont se mettre à remplacer les anciens. Et donc à repeupler la moelle osseuse qui est importante. Et donc il y a des résultats qui sont importants. On a commencé également de soigner des personnes qui ont des maladies génétiques de l'hémoglobine, la drépanocytose ou les thalassémies, surtout des thalassémies. Ça représente pas énormément, mais il y a plusieurs centaines d'essais cliniques de thérapie génique et il doit y avoir aujourd'hui sans doute une centaine de personnes qui en ont bénéficié.
Le grand problème, c'est que ce sont des techniques qui sont très coûteuses et donc les coûts demandés par les entreprises qui développent ces thérapies sont exorbitants et qu'il y a des vraies tensions économiques dans ce secteur. Donc si on arrivait à trouver une méthode qui fasse diminuer les coûts, ça permettrait d'étendre les indications car il y a des vrais besoins dans le secteur.
Pourquoi est-ce coûteux ? Parce qu'il faut vraiment travailler au cas le cas.
Oui, c'est ça. Et ça s'adresse à des très très petits marchés. Quelques centaines de personnes malades dans le monde, quelquefois quelques dizaines. Donc vous imaginez que tous les coûts d'investissement pour mettre au point la technique doivent être partagés sur ces quelques malades. Et donc pour la sécurité sociale en France, par exemple, ça représente des sommes énormes par patient. Actuellement, c'est entre 1 million par patient et 5 millions est annoncé pour des thérapies géniques qui arrivent. Je veux dire, ça fait quand même peur à beaucoup de payeurs.
Mais ça, c'est un peu votre quotidien à vous, puisque vous êtes médecin spécialisé dans les maladies orphelines, donc par définition rare. Donc, tous les traitements pour les maladies orphelines, tous ces traitements qui sont proposés sont des traitements qui, par nature, ne peuvent pas s'appliquer à beaucoup de monde.
Oui, tout à fait. Et les coûts sont élevés pour tous ces traitements. Mais là, on parle de chiffres qui sont quand même bien au-delà de ce dont on parle d'habitude. Et qui sont vraiment maintenant des sujets de préoccupation pour beaucoup de monde.
Axel Kahn, on évoquait tout à l'heure dans cette question des bébés OGM avec les réactions qui sont toutes des condamnations validation de cette tentative scientifique, si celle-ci est avérée. Et vous évoquiez un risque, ou peut-être même plus qu'un risque, une réalité liée à l'eugénisme, un eugénisme positif. Est-ce que l'eugénisme positif pose les mêmes questions éthiques que l'eugénisme négatif qui consiste à supprimer des êtres humains qui sont déjà là?
Voilà. Le but de l'eugénisme positif, de l'homme, le mythe de l'humain augmenté, du transhumain, hein, c'est à la base du transhumanisme. C'est effectivement de faire naître par modifications diverses, soit par le couplage avec l'intelligence artificielle, soit par des modifications génétiques, faire naître des humains avec des nouvelles propriétés. Lorsque l'on parle de l'aspect génétique, le grand problème, c'est qu'est-ce que c'est qu'un homme ou qu'une femme augmentée? Qu'est-ce que c'est qu'un humain augmenté? Est-ce que c'est un humain qui est très costaud pour arriver à concourir dans les équipes olympiques du pays? Ce serait une instrumentalisation et l'éthique dit que ça n'est pas possible. Est-ce qu'il s'agit d'un humain immortel? Souvent les transhumanistes parlent de cela. Honnêtement, aujourd'hui il y a un animal d'expérience sur lequel on travaille le vieillissement. Il a un très joli nom, il s'appelle Caenorhabditis elegans. Il n'a que 965 cellules. Nous, on en a 5000 milliards.
Ça ressemble à quoi cet animal?
Oh, c'est un ver. C'est un petit ver, voilà. Et ce très gentil animal sur lequel on travaille beaucoup, on est incapable de le rendre immortel. Incapable. Et donc, honnêtement, l'idée que l'on serait à deux doigts de maîtriser l'immortalité humaine, c'est de la foutaise. C'est de la mystification. Ceux qui le prétendent sont des mystificateurs. Ou alors, imaginons même que l'on
vous
puisse...
Vous augmentez sa durée de vie de combien de temps à ce ver?
Alors, lui, le ver, on arrive... Alors, de toute façon, la longévité humaine augmente, hein. Je veux dire que demain, sans doute, l'âge de mort de Jeanne Calment correspond, la plupart, il y a des discussions, mais la plupart des personnes sont d'accord, correspond un peu à une limite biologique. Et il n'est pas exclu qu'une grande proportion des filles et des garçons qui naissent arrivent autour de l'âge de Jeanne Calment. Mais au-delà, on n'a pas le sentiment qu'on est capable aujourd'hui de le réaliser. Alors, parlons toujours de l'homme augmenté. Évidemment, le mieux, ça serait un homme comme cette personne qui, tout à l'heure, présentait le journal.
Clara Lecoq Réal. Vous pensez qu'on peut faire une Clara Lecoq Réal
augmentée? C'est-à-dire une femme merveilleuse, extraordinaire, voilà, lumineuse, etc. Mais honnêtement, la modification...
Elle a déjà beaucoup de qualité.
La modification de gènes qui permet à quelqu'un d'être plus généreux, d'être plus créatif, etc., etc., c'est pas de demain la veille qu'on va le trouver. Et puis même si on y arrivait...
Non, mais si on pouvait faire en sorte qu'elle fasse plus voilà. de journaux, qu'elle dorme moins, par exemple.
Même si on y arrivait, imaginons qu'on fasse effectivement quelqu'un de beaucoup plus intelligent, qui a plus de mémoire. Vous voyez, on est, Ségolène et moi, nous sommes médecins. Ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de compenser les inégalités de nature en transformant les malades en bien portants. Et la technique fait ça. Elle permet aux petits chétifs d'être aussi forts que le grand costaud. Ne voilà-t-il pas avec le transhumanisme que on ferait à l'inverse, on créerait des inégalités biologiques? Et ça, c'est le gros problème. Est-ce qu'on va se mettre à demander à la science de créer des nouveaux, de nouvelles inégalités biologiques?
Alors moi, je voudrais tenir un tout autre discours, bien que j'adhère à celui-là. C'est que on mystifie le public sur nos connaissances sur le génome. On ne comprend absolument rien à notre génome. On est au tout début de la compréhension de comment ça marche. On parle des 20 000 gènes humains, mais les 20 000 gènes humains, ils représentent même pas 5% de l'ensemble de notre génome. Le reste, c'est une terre inexplorée, enfin qu'on est en train de commencer à explorer, mais qui évidemment joue un rôle énorme et qui régule tout ça. Il y a, comme vous avez évoqué tout à l'heure, des phénomènes aussi épigénétiques des modifications.
Alors,
qui sont liées à l'environnement.
Le terme doit être défini.
Oui, je vais l'expliquer. Oui, ce sont les modifications de l'expression des gènes qui sont induites par l'environnement, par notre expérience avec notre environnement général, biologique, culturel, climatique, alimentaire, etc.
C'est-à-dire que l'épigénétique ne concerne pas la modification des gènes, mais leur expression.
Voilà.
Quelle différence fait-on, Ségolène Aimé?
Alors, on pourrait considérer le génome comme une suite de codes codant donc pour des fonctions. Pourtant, ces fonctions, elles ne sont pas toutes utilisées, donc pas toutes exprimées dans toutes les cellules à tout moment. Il y a des régulations. Donc, on peut éteindre l'expression d'un gène, au contraire, la surexciter, voilà, parce qu'on en a besoin à un moment donné.
Mais alors, par exemple, juste pour prendre un exemple, Ségolène Aimé, dont on a beaucoup parlé ces derniers temps dans la communauté scientifique, le fait d'être, par exemple, descendant d'une population qui a connu la faim, est-ce que ça, ça peut... Eh bien, expliquez-nous qu'est-ce que l'on sait et comment ça peut fonctionner.
Alors, notre fonctionnement biologique est une fonction d'adaptation à notre environnement. Si on ne comprend pas ça, on ne comprend rien. On n'a pas des données sur soi-même définitives à la naissance et qui ne vont pas bouger. On sait que il va y avoir après même la fécondation encore des nouvelles mutations qui vont survenir pendant la vie embryo-fœtale, puis tout au long de la vie dans les organes. Quand vous séquencez le génome d'une cellule de poumon ou de cerveau, vous avez des centaines ou des milliers de mutations différentes de ce que vous auriez en prenant une cellule du sang, etc. Donc, non seulement on a un génome très divers d'un individu à l'autre, mais nous-mêmes, à partir du code qu'on avait au départ, on a déjà modifié notre code dans la vie embryo-fœtale, et puis ensuite, on va encore le modifier dans nos organes. Et en plus de ça, du fait de notre expérience biologique, de à quoi on a été confronté, on va s'adapter. Et dans l'épigénétique, qu'est-ce qu'on dit ? On dit simplement qu'il faut garder mémoire des expériences, parce que c'est ça l'adaptation. Hein. Et en gardant mémoire des expériences, on se prépare à éventuellement retrouver la même situation. Avec l'histoire de la famine, ça veut dire que quand une population est exposée à une période de famine intense, où il faut évidemment adapter son métabolisme à ce peu de ressources, eh bien, il faut que cette expérience-là soit conservée parce que le corps anticipe que peut se reproduire. Et donc, la génération suivante a conservé cette fonctionnalité. Et la génération suivante, on est sûr au moins que sur 3 générations, c'est conservé. Et peut-être plus.
Axel Kahn, qu'est-ce que l'on sait autour de l'épigénétique et justement, quelles peuvent être les applications intellectuelles ou médicales?
J'ai d'abord parlé en généticien moléculaire. C'est ma formation et mon domaine de recherche. La base de l'épigénétique est la suivante. Il y a toute une machinerie pour faire fonctionner les gènes. Donc la génétique, c'est tout ce qui est lié au pouvoir codant des gènes. Mais évidemment, il y a le pouvoir codant et le niveau de fonctionnement des gènes. Et ça dépend un peu de ce moteur qui va régler le niveau de fonctionnement des gènes. Eh bien, ce moteur sont des protéines en particulier, sont sujettes, ces protéines, aux effets de l'environnement, à l'alimentation, au stress, aux hormones. Et ces modifications vont durablement, parfois pour quelques générations, jamais autant que la génétique, vont arriver à modifier le niveau de fonctionnement des gènes et par conséquent le phénotype. C'est ça l'épigénétique. Alors après, on a étendu cela de manière très large jusqu'à penser que les modifications intellectuelles liées à l'environnement étaient épigénétiques.
Mais justement, est-ce que c'est pas trop large? Parce que finalement, on se demande si il n'y a pas une limite, ou bien si on va considérer que tout est héritable.
Non, voilà. Je crois qu'il faut garder son vrai sens à épigénétique. Épigénétique, c'est une modification de la machinerie qui règle le niveau de fonctionnement des gènes et qui, il se trouve, peut être transmissible sur une ou deux générations. Je vais vous donner un très bel exemple de cela. Après la guerre, il y a eu une très très grande carence alimentaire dont ont souffert en particulier les femmes enceintes de Hollande. Et donc leurs enfants ont été de très petite taille. Eh bien ces enfants ont fait en nombre accru des hypertensions artérielles, des diabètes. Eh bien ces anomalies ont été transmises sur une ou deux générations après, c'est-à-dire chez les enfants de ces enfants. Puis après, cela se dissipe. C'est la grande différence entre une modification génétique et une modification épigénétique.
Et c'est pour cela qu'on a aujourd'hui, par exemple, des cohortes d'éléphants qui naissent sans défense. Alors ça, c'est ce que l'on a appris la semaine dernière. Donc, des éléphants qui ne sont pas braconnés.
C'est pas de l'épigénétique, ça. C'est quoi ? Ça, c'est du darwinisme classique. banale, extrêmement. Je vais vous expliquer, c'est très simple. Voilà. Il y a dans la population, on le sait bien, des populations d'éléphants qui n'ont pas ces incisives supérieures qui sont les défenses chez les éléphants. En réalité, il y a la même chose chez les humains, en l'occurrence. Ils sont pas très très nombreux. Mais l'avantage, c'est qu'ils n'ont pas de défense, ils ne sont pas tués. Et donc, comme ils ne sont pas tués, ils se reproduisent. Alors que ceux qui ont des grosses défenses sont tués. Ils ne se reproduisent pas. Si bien que les gènes qui codent pour cette absence d'incisive supérieure les défenses, eh ben, ils vont se répandre. Ça, c'est une sélection darwinienne absolument caractéristique et typique.
Mais alors, moi, je pensais que c'était du lamarckisme et on m'avait appris non, quand j'étais étudiant.
Du darwinisme typique.
Parce que moi, je pensais que lorsqu'on coupait, par exemple, la queue de souris, eh bien, la queue, évidemment, demeurait pour les générations futures. Or là, vous êtes en train de m'expliquer que sur peu de générations, parce que le braconnage n'a pas commencé il y a des milliards d'années, il a commencé il y a très peu de temps, que les braconniers ont permis aux éléphants d'adopter une autre stratégie.
C'est pas une stratégie, hein, c'est tout à fait passif. Mais on connaît bien cela. Ce qui est très bien connu, par exemple, sont les papillons en Angleterre. Les papillons qui étaient blancs, lorsque la pollution a rendu tout gris.
À cause du charbon.
Absolument, à cause du charbon, eh ben, on a vu se multiplier des papillons noirs. Et maintenant que la pollution diminue, eh bien, la population de papillons blancs réaugmente. Donc ça, c'est un phénomène extrêmement banal. Dans l'histoire humaine, il y a un cas, vous en avez parlé tout à l'heure, qui est l'obésité. L'obésité, jadis, évidemment, dans certains endroits, c'était les années de vaches maigres qui dominaient. Et donc, l'évolution a gardé les gènes qui permettaient néanmoins de ne pas mourir, notamment pour les femmes enceintes, pour les femmes allaitantes, d'avoir assez de graisse pour faire du lait et nourrir les enfants. Et du jour où on est passé au régime drugstore, au régime de superabondance, ces bons gènes d'antan sont devenus les gènes de l'obésité.
Ségolène Aimé.
Oui, moi je voudrais ajouter à tout ça le fait qu'on est très très loin de comprendre, parce que vous parlez comme si on était capable de comprendre comment le génome fonctionne. Je veux revenir à mon idée initiale. Je voudrais dire qu'actuellement, on découvre énormément de variants génétiques, même dans les gènes qu'on connaissait très bien, dont on ne connaît absolument pas la signification, et on a énormément de mal à interpréter maintenant les données du séquençage qui sont devenues le must, si vous voulez, dans l'exploration du génome. Et donc, comment peut-on imaginer qu'on va faire des manipulations génétiques à l'avenir tant qu'on n'a pas complètement compris tout ça et on est à l'aube de la génomique?
Et aujourd'hui, il y a un article dans The Atlantic, un magazine américain, qui explique que le séquençage du génome, il s'est fait sur une personne et que cette personne, elle a des caractéristiques comme tout un chacun, mais que du coup, il est fort probable que cet individu ne soit pas représentatif de la totalité de la diversité humaine.
Ah non, c'est pas que c'est fort probable, c'est certain.
Mais alors, pourquoi ça aussi, c'est une découverte, puisque moi, je pensais que le génome humain, il avait été décodé sur une quantité impressionnante d'individus. Pourquoi choisir une seule personne, Axel Kahn?
Simplement un point. Vous avez raison. Cela dit, aujourd'hui, le génome humain de centaines de milliers de personnes a été séquencé. Aujourd'hui, séquencer le génome humain est devenu un jeu d'enfant. Et même dans un laboratoire de recherche en cancérologie, comme ça, chemin faisant pour faire la recherche sur tel ou tel cancer, eh ben, on séquence le génome humain. Donc aujourd'hui, ça pose un problème d'ailleurs extrêmement important de législation quant à la propriété, ce que l'on va faire de cette connaissance. Il y a des milliers et des milliers, peut-être des dizaines de milliers de génomes humains qui ont été séquencés.
Alors pourquoi cet article dans The Atlantic qui explique que on a travaillé sur un homme et que ça pose
oui,
toute une
non,
série
mais quand,
de problèmes.
Quand des technologies se développent, on cherche toujours à voir une référence. Donc c'est vrai que il y avait légitimité scientifique à dire voilà, ça c'est le génome de référence et maintenant toutes les séquençages qu'on va faire, on va le comparer à ce génome-là pour qu'on parle tous le même langage. Mais ça n'a pas la signification que vous pensez qui serait de dire que en réalité il y a une référence normale et que tout le reste, ce sont des déviances par rapport à ça. C'est pas du tout le cas. Ce qu'on sait depuis le début du XXe siècle, c'est que la génétique des populations est expliqué par l'histoire des migrations populationnelles, que comment s'est fait le peuplement de la planète. Eh bien, des petits groupes sont partis pour aller tenter leur chance ailleurs, et ces petits groupes n'étaient pas représentatifs de l'ensemble de la population. C'était 10 individus, une vingtaine d'individus. Donc, ils emmenaient un pool de gènes qui était restreint. Et donc, il y avait ce phénomène de dérive génétique, c'est-à-dire que progressivement, par tous ces départs, des petites populations différentes se différenciaient. Et puis ensuite, elles vivaient des expériences différentes, avaient leurs propres mutations. Et donc, en réalité, les populations humaines sont extrêmement diverses et on ne peut pas utiliser un génome de référence américain pour interpréter des gènes africains.
Un mot de conclusion, Axel Kahn.
Je crois que, si on revient au bébé chinois, que ce soit vrai ou pas vrai, etc., c'est fou.
C'est bébé OGM.
Bébé OGM, voilà. C'est tout de même un événement très très important. Car les courants transhumanistes sont aujourd'hui extrêmement puissants. Ils ont pignon sur rue, aux États-Unis, dans le monde entier et en France également. Voire même, ils écrivent pratiquement plusieurs fois par semaine dans la plupart des journaux. Et le fait que pour la première fois, quelqu'un ait modifié le génome dans le but de faire apparaître un lignage avec soi-disant un trait améliorateur, ça reste une date considérable et c'est un événement dont il ne faut pas sous-estimer l'importance.
Merci à tous les deux. Merci Ségolène Aimé. Merci Axel Kahn. Je rappelle le titre de votre ouvrage « Chemin » et c'est publié chez Stock.